VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Nouakchott, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Bénin, l'Assemblée nationale béninoise se réunit ce vendredi en session extraordinaire pour statuer sur le projet de révision de la Constitution. Ce projet de modification de la Constitution, l'un des arguments de campagne du président Patrice Talon, prévoit non seulement une discrimination positive en faveur des femmes dans le monde politique et un financement public des partis, mais également la mise en place d'un mandat présidentiel unique, une mesure historique sur le continent africain et qui suscite la controverse. En Mauritanie, l'opposition dénonce le passage en force du président Mohamed Ould Abdelaziz, qui a annoncé son intention de faire adopter son projet de révision constitutionnelle par référendum. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Moins d'une semaine après le rejet du Sénat du projet de révision de la Constitution, le chef de l'État mauritanien a annoncé qu'il allait emprunter une porte de sortie, c'est-à-dire le référendum. Mais l'opposition radicale réunie au sein du FNDU, le Forum national pour l'unité et la démocratie, hostile à ce projet, a mis en garde contre un précédent qui pourrait faciliter à terme une éventuelle modification de la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. Moussa Fall, président du FNDU, a prévenu « la porte qu'il ouvre peut dangereusement conduire à lever les verrouillages sur le troisième mandat présidentiel ». Pour lui, il s'agit ni plus ni moins qu'un énième coup d'État. Arrivé au pouvoir par un putsch en 2008, Monsieur Ould Abdelaziz, un ancien général, a été élu en 2009 et réélu en 2014 pour un second mandat de 5 ans. Élaboré lors d'un dialogue en 2016, ce projet de révision a été approuvé par l'Assemblée nationale, mais repoussé par le Sénat.
Tchad, l'otage français enlevé jeudi dans l'est du pays se trouve au Soudan voisin, a déclaré ce vendredi le ministre tchadien de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir. Monsieur Bachir avait indiqué la veille que le français travaillant pour une compagnie minière privée avait été enlevé dans une localité située à 50 km de Gosbeïda, à 200 km au sud d'Abéché. Ce n'est pas la première fois qu'un français enlevé au Tchad se retrouve au Soudan, Morgan Guiriec.
Le dernier enlèvement d'un Français au Tchad remonte à 2009. Laurent Meurice, un agronome travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge, avait été kidnappé dans l'est du pays. Une prise d'otage revendiquée par un groupe soudanais du Darfour, les Aigles de Libération de l'Afrique. Il avait été libéré le 6 février 2010, après 89 jours de détention.
Violence en RDC, à La Haye, les juges de la Cour pénale internationale, la CPI, ont attribué pour la première fois ce vendredi des réparations monétaires à des victimes de crimes de guerre en allouant $250 symboliques à chacune des 297 victimes d'un massacre dans le village de Bogoro, dans le nord-est de la RDC, en 2003. Les juges ont également estimé que le chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné en 2014 à 12 ans de détention pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est personnellement responsable du paiement $1 million pour réparer des dommages estimés à plus de 3 millions. Mais ils ont aussi admis l'indigence de cet ancien leader militaire de 38 ans. Et toujours concernant des violences en RDC, les enquêteurs de l'ONU déployés dans la région du Kasaï estiment à près de 17 le nombre de fosses communes liées aux violences entre miliciens Kamuina Nsapu et forces de l'ordre, selon le sous-secrétaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Andrew Gilmore. Plus de détails avec Paul Nsapu, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits de l'homme pour l'Afrique.
C'est une parodie d'enquête, des mises en scène, puisque le gouvernement congolais, le régime actuel, n'a jamais fait aboutir ces annonces d'enquête. Souvenez-vous qu'il y a eu le charnier de Maluku il y a quelque temps. Le gouvernement avait promis qu'une enquête allait s'ouvrir et qu'on aurait des résultats jusqu'à aujourd'hui. L'enquête n'a pas abouti. Et aujourd'hui, on découvre malheureusement qu'il y a pas moins de 13 fosses communes autour de Kananga et dans le terrain où il y a eu des opérations de ratissage par les éléments de l'armée, infiltrés par les éléments de la garde républicaine, et même des miliciens, certains miliciens qui coopèrent avec le régime. Il y a vraiment une horreur. Pas moins de 500 personnes qui ont été exécutées.
Paul Nsapu, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits de l'homme pour l'Afrique, lors de son passage à Washington.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, alors que le RDPC fête ce 24 mars 32 ans au pouvoir, l'opposition quant à elle reste profondément divisée sur le choix d'un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2018. Un mouvement de la société civile dénommé Alternance 2018, créé par Florent Zana, s'est pourtant proposé d'organiser en mars 2017 les toutes premières primaires de l'opposition camerounaise. Mais son initiative reste jusqu'ici lettre morte. De Yaoundé, les explications de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
C'est le 15 mars dernier que devaient débuter les primaires en vue du choix du candidat de l'opposition camerounaise à l'élection présidentielle de l'an prochain. La date du 15 mars avait été arrêtée depuis 2016 par le mouvement de la société civile Alternance 2018, mais n'a pas été respectée à échéance. Marie-Jeanne Abega, déléguée régionale du mouvement Alternance 2018 pour la région du centre à Yaoundé.
Les primaires sont toujours en vue. Nous nous sommes heurtés à beaucoup de barrières administratives, la réticence de certaines personnes, mais les gens sont d'accord avec l'organisation des primaires. Les partis leaders nous ont dit qu'ils vont d'abord se concerter, ils nous reviennent dans quelques instants, donc on attend.
L'échec à la candidature unique de l'opposition avait déjà été enregistré en 2004 au Cameroun. John Frondi du SDF avait rejeté le choix porté sur son adversaire Adamu Ndamdjoya de l'UDC. Depuis lors, les principales forces politiques de l'opposition sont divisées, comme l'explique Ndjoya Moussa, politologue.
Les acteurs qui dominent actuellement les grands partis d'opposition nourrissent d'éléments de méfiance et de défiance entre eux. Deuxième chose maintenant, au sein des grands partis, le SDF estime que tout regroupement de l'opposition ne peut se faire qu'autour du SDF. Or, d'aucuns estiment que le SDF est même le principal problème de l'opposition.
Le SDF assume et mérite son leadership politique au sein de l'opposition camerounaise, confie sous anonymat un cadre du parti. Pour sa part, l'Union pour la Fraternité, l'UFP, de Olivier Bilet, adhère à Alternance 2018. Mais à une condition.
Nous sommes des acteurs politiques qui sont désireux d'apporter une dynamique nouvelle pour l'avenir. Nous voulons orchestrer cette nouvelle politique et elle doit donc commencer à partir de maintenant par ce mécanisme de la primaire qui pour nous est une condition absolument non négociable.
Le Cameroun People Party accueille avec moins d'enthousiasme l'option de présenter un candidat unique de l'opposition. Edith Kawala, président du CPC, préconise plutôt un autre champ de bataille.
Il est important en tant que Camerounais que nous établissons les bases pour pouvoir faire des élections en bonne et due forme. Une élection à deux tours crée automatiquement le candidat unique sur la base de l'expression des voix des citoyens.
Avec tant de divergences, certains Camerounais sont sceptiques au sujet d'une candidature unique de l'opposition lors de la présidentielle de 2018.
Lorsqu'on regarde le profil des opposants, chacun essaie de sauvegarder son intérêt au détriment des intérêts de toute la population.
L'opposition même au Cameroun est une opposition qui va avec les replis identitaires. Partant de cela, ça devient difficile.
Malgré tout, le mouvement Alternance 2018 reste déterminé à mettre l'opposition camerounaise face à ses responsabilités. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA, Afrique.
Et pour terminer ici à Washington, le président Donald Trump tentera d'obtenir ce vendredi l'abrogation de l'Obamacare, le programme d'assurance santé de son prédécesseur Barack Obama, en soumettant le projet de loi en ce sens au vote de la Chambre des représentants du Congrès. Mais le soutien des membres de son propre parti républicain n'est pas garanti. Jean-Roger Bion.
Donald Trump n'a pas réussi jeudi à convaincre suffisamment de républicains contraignant la Chambre des représentants à différer hier son vote. Les républicains les plus conservateurs, affiliés au Freedom Caucus, estiment que le nouveau texte ne diffère pas assez de l'Obamacare, tandis que les modérés craignent à l'inverse que la proposition de loi ne revienne à accroître le nombre d'Américains sans couverture maladie. Mais le directeur du budget de la Maison-Blanche a déclaré jeudi soir, lors d'une réunion des républicains de la Chambre, que le président avait fini les négociations et voulait un vote vendredi, selon le représentant de New York, Chris Collins, proche allié de Trump. Le président a dit qu'il voulait un vote pour ou contre, a fait savoir à Chris Collins. Si pour une quelconque raison c'est contre, nous allons continuer à avancer sur d'autres parties de son programme, comme des réformes fiscales, a-t-il ajouté, et Obamacare restera en place. À l'issue d'une réunion au Congrès entre responsables de la Maison-Blanche et dirigeants de la Chambre, des députés ont confirmé à des journalistes que le vote aurait lieu aujourd'hui. Selon le représentant Mark Meadows, président du groupe conservateur Freedom Caucus, des amendements de dernière minute sont à l'étude, mais le soutien nécessaire à l'adoption du projet reste incertain.
Merci de votre attention.